Le journal de la rédaction est présenté par Thomas Larabi. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Chloé, bonsoir à tous. Recep Tayyip Erdogan veut envoyer ses troupes en Libye. Le président turc demande à son assemblée de voter le déploiement de soldats pour venir en aide au gouvernement de Tripoli. Bertrand Galichet nous expliquera pourquoi Erdogan tient à s'investir toujours davantage dans ce conflit. En Russie, l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, est à nouveau la cible de la justice. Son organisation anti-corruption a subi ce matin une nouvelle perquisition violente. Nous ferons le point sur ce combat judiciaire, mais surtout politique, avec Claude Bruyot. Nouveau report pour la réforme très controversée des APL. Elle devait entrée en vigueur le 1er janvier, ce sera finalement le 1er avril. Catherine Pétillon nous explique les raisons de ce délai. Et puis à la fin de ce journal, zoom sur l'armée la plus petite, la plus colorée et sûrement l'une des plus méconnues de notre époque, la garde suisse pontificale. Notre correspondant à Rome, Bruce de Galzin, a lu au Vatican une bande dessinée qui leur est consacrée. Recep Tayyip Erdogan veut envoyer ses soldats en Libye. Le président turc annonce le prochain vote au Parlement sur l'envoi de troupes pour soutenir le GNA, le gouvernement d'union nationale libyen basé à Tripoli. Le GNA, soutenu par l'ONU, fait face aux offensives de l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, soutenu lui notamment par l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les Émirats Arabes Unis. Bonsoir Bertrand Galichet.
Bonsoir.
Comment peut-on expliquer cette volonté d'Erdogan d'envoyer des troupes sur place?
Eh bien parce que la Turquie a un intérêt stratégique à étendre sa zone d'influence dans le bassin méditerranéen. Factuellement, Ankara répond à une sollicitation du régime de Tripoli menacé par Khalifa Haftar. Ce projet a donc de bonnes chances de se concrétiser officiellement pour soutenir la légalité internationale. Le gouvernement d'union nationale de Fayez el-Sarraj, installé à Tripoli, étant le seul reconnu par les Nations Unies. En réalité, la Turquie a des objectifs précis dans ce pays, situé à un millier de kilomètres de ses côtes. Ainsi, fin novembre, le président Erdogan a signé avec Sarraj un accord donnant à la Turquie des droits sur une zone maritime convoitée par la Grèce en Méditerranée orientale, une récompense pour le soutien militaire déjà apporté depuis des mois par l'armée turque au gouvernement de Tripoli, notamment avec des drones lancés contre les troupes du général Haftar. La Turquie développe sa présence dans toute la région, du Qatar jusqu'en Syrie, en passant par la partie nord de Chypre. Cette intervention annoncée est aussi une façon de renforcer le nationalisme turc, la Libye ayant été une province ottomane entre le XVIe et le début du XXe siècle.
Et comment la communauté internationale risque d'accueillir ce potentiel déploiement de troupes turques?
Eh bien, Erdogan prend des risques importants. D'abord celui de créer des tensions avec son partenaire russe qui appuie en sous-main l'autre camp, celui du général Haftar. La Russie aurait déployé auprès de lui des centaines de mercenaires, notamment ceux de la société de sécurité Wagner, impliqués, on le sait, dans plusieurs autres pays d'Afrique. De quoi compliquer les relations entre Ankara et Moscou, qui ont pourtant opéré un rapprochement à la faveur de la guerre en Syrie. De même, les États-Unis, soucieux de préserver Khalifa Haftar, pourraient engager un bras de fer avec la Turquie sur ce sujet. En revanche, la France continue, elle, de jouer sur les deux tableaux, soutien officiel à Sarraj et aide plus ou moins discrète à Haftar, jugé incontournable.
Les explications de Bertrand Galichet. En Centrafrique, des combats entre miliciens et commerçants ont lieu depuis hier soir dans un quartier majoritairement musulman de Bangui, le PK5. Au moins 11 personnes ont été tuées. Des rafales de fusils automatiques, des explosions ont retenti et une partie du marché a brûlé dans ce quartier qui échappe au contrôle des autorités centrafricaines et aux forces de l'ONU. Les membres du Likoud votent aujourd'hui pour élire leur chef de file en Israël. Une élection aux airs de référendum pour l'actuel leader du parti, Benjamin Netanyahou, récemment inculpé pour corruption et qui doit faire face à Gideon Saar, déterminé à lui ravir sa place. Gideon Saar est un ancien ministre écarté par Netanyahou. Il est considéré comme plus marqué à droite que le Premier ministre, notamment sur la question palestinienne. L'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, est à nouveau la cible de la justice russe. Son organisation anticorruption a été ce matin victime d'une nouvelle perquisition ordonnée selon Navalny dans le cadre d'une enquête pour blanchiment. Ce bloqueur et avocat de 43 ans a été traîné par la police. Ce sont ses mots hors des bureaux moscovites du fonds de lutte contre la corruption, mais il est libre. Quelques minutes plus tôt, des enquêteurs y avaient forcé la porte et la perceuse à la perceuse et à la scie électrique. Les enquêteurs voulaient saisir une vidéo embarrassante pour le Premier ministre Dimitri Medvedev. Les explications de notre correspondant à Moscou, Claude Bruyot.
En raison de leur statut d'agent de l'étranger, Alexeï Navalny et son organisation, le Fonds de lutte contre la corruption, sont maintenant soumis à un scénario bien rodé. À chaque fois qu'ils interviennent ou s'apprêtent à intervenir, ils font l'objet d'une descente de police. Aujourd'hui, pourtant, les enquêteurs voulaient d'abord obtenir de Navalny la suppression d'une vidéo vieille de 3 ans, déjà consultée 32 millions de fois sur YouTube, et dans laquelle le Premier ministre Dmitri Medvedev était présenté comme un spéculateur immobilier. Cette intervention fait suite également aux protestations d'Alexeï Navalny concernant l'arrestation de l'un de ses collaborateurs, coupable de s'être soustrait à son service militaire et envoyé manu militari sur l'une des bases russes récemment réactivées dans l'Arctique, au cœur de l'archipel de la Nouvelle-Zemble. Une mesure qualifiée par Alexeï Navalny en personne de véritable enlèvement.
Une correspondance de Claude Bruyot. Le constructeur automobile BMW a-t-il manipulé ses chiffres de vente aux États-Unis? Le groupe allemand, en tout cas, est sous le coup d'une enquête du gendarme américain de la bourse. C'est le Wall Street Journal qui révèle l'information. La marque assure coopérer. Depuis New York, Loïc Loury.
Des véhicules enregistrés comme vendus, pourtant alignés bien sagement sur les parkings des concessionnaires. La technique est bien connue, elle est surtout totalement interdite puisqu'elle permet de gonfler artificiellement les chiffres de vente de voitures. De quoi tromper les investisseurs et les actionnaires, BMW étant coté à Francfort, mais aussi à la bourse américaine. Pour cette raison, la marque est donc sous le coup d'une enquête du régulateur des marchés financiers. L'italo-américain Fiat Chrysler, pour le même motif, avait été d'une amende de 40 millions d'euros. Ces investigations d'ores et déjà jettent une ombre sur les bons chiffres annuels de BMW au niveau mondial, l'Allemand signant en effet en octobre un record de ventes. Mais cela ne saurait cacher les difficultés que traverse le groupe aux États-Unis. Notamment, le constructeur doit composer avec la pression de l'administration Trump engagée dans son bras de fer commercial avec la Chine. En Europe, enfin, le scandale du Dieselgate plane toujours et BMW anticipe une probable amende de près d'1,5 milliard d'euros. La somme déjà mise de côté a plombé les comptes de l'entreprise sur les 9 premiers mois de l'année.
Et ce n'est pas la seule affaire qui touche aujourd'hui le constructeur allemand, puisqu'en Europe, Bruxelles soupçonne BMW de s'être entendu avec ses concurrents pour ralentir le développement de technologies antipolluantes. Depuis de nombreuses semaines, Washington et Pékin n'en finissent plus de jouer à « je t'aime, moi non plus ». Pas une semaine ne se passe sans que Donald Trump annonce l'imminence d'un grand accord commercial entre les deux géants. Et pourtant, la Chine dénonce ce jeudi les dispositions du budget américain de la défense qui entravent le développement d'entreprises chinoises. Pékin menace même Washington de prendre des mesures de rétorsion. En effet, le budget du Pentagone promulgué la semaine passée interdit le recours à des fonds fédéraux pour l'achat de wagons et de bus électriques auprès d'entreprises chinoises. La loi de finances contient aussi des dispositions concernant Huawei, le géant chinois des télécoms, placé sur une liste noire. Huawei que Washington soupçonne d'espionnage au profit de Pékin. En 1995, après 22 jours de grève des cheminots, le Premier ministre Alain Juppé abandonnait son projet de réforme des retraites. 24 ans plus tard, syndicats et gouvernements semblent toujours loin d'un compromis ou d'une reddition. Le taux de grévistes continue, lui, de faire un léger yo-yo. Il est en légère baisse aujourd'hui avec 9,6% de grévistes chez les cheminots. Chez les conducteurs d'ordinaire très mobilisés, le chiffre tombe à 42%. Les discussions doivent reprendre entre syndicats et gouvernement le 7 janvier. En attendant, sur les rails, demain, comptez 6 TGV sur 10, 7 Ouigo sur 10, 1 Transilien sur 5 et 1 Intercité sur 3. 5 lignes de métro resteront fermées dans la capitale. Et en ces temps de grève, la SNCF reçoit aujourd'hui un trophée dont elle se serait bien passée. Le Cactus d'Or lui est décerné par 60 millions de consommateurs. Les raisons de cette victoire, selon le magazine, les problèmes d'accès au guichet, les nouvelles cartes de fidélité moins avantageuses, les problèmes de ponctualité et les prix du billet jugés très chers. Le gouvernement fait un geste pour les commerçants qui subissent la grève. Ces derniers peuvent demander un report du paiement de leurs prélèvements fiscaux. Un report de charges qui se demande via un simple formulaire CERFA disponible sur le site du ministère de l'Économie, selon le porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée, Laurent Maillard. Il peut aussi être rempli auprès des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers. La réforme des APL à nouveau reportée. Elle devait entrer en vigueur le 1er janvier. Ce sera finalement le 1er avril, annonce aujourd'hui le ministre chargé de la ville et du logement, Julien de Normandie. Un report pour assurer, selon lui, un meilleur niveau de sécurité et de fiabilité pour les allocataires. Cette réforme, qui accuse désormais 15 mois de retard, est censée permettre une prise en compte plus rapide des hausses et baisses du revenu. Et c'est la Caisse nationale des allocations familiales, la CNAF, chargée entre autres des aides au logement, qui a demandé ce nouveau report d'un trimestre. Catherine Pétillon.
Il faut dire que pour la CNAF, le chantier est de taille. Le montant des aides au logement dépend des ressources de chacun, mais le mode de calcul va changer. Il prendra en compte les revenus des 12 derniers mois, actualisés tous les trimestres, et non plus les revenus perçus 2 années auparavant. Autrement dit, les APL vont être calculés en temps réel. C'est rendu possible par le prélèvement à la source. En pratique, pour les CAF, cela veut dire de nouvelles sources de données, un nouveau rythme d'actualisation. Voilà qui requiert d'importants changements informatiques. Or, ils ne sont pas finalisés, explique Vincent Mazoric, le directeur général de la CNAF.
Il reste à assurer de manière irréprochable la communication entre les éléments nouveaux de nature informatique que nous avons fabriqués avec un système ancien qui va demeurer un certain temps, qui délivre les autres prestations et qui les paye toutes. La seconde chose à garantir, c'est naturellement la qualité de tous les calculs ainsi que le bon fonctionnement de tout ce qui permet aux allocataires de correspondre avec nous. Par exemple, pour faire une demande d'aide au logement, il n'y a pas d'incertitude sur le fond, il reste exclusivement des difficultés de nature technique.
De fait, le décret doit être signé dans les tout prochains jours. Or, sur le fond, l'enjeu de la réforme n'est bien sûr pas que technique. Rappelons qu'elle s'inscrit dans un objectif d'économie. En 2020, l'enveloppe budgétaire dédiée aux APL diminue d'1,3 milliard d'euros. Moins d'argent et de nouveaux modes de calcul, cela aura des conséquences sociales. Certains perdront leur APL, comme par exemple les jeunes qui entrent sur le marché du travail. Reste qu'en l'absence d'études d'impact disponibles, difficile aujourd'hui d'avoir une vision précise de toutes les conséquences de cette réforme.
Les précisions de Catherine Pétillon. Après les vendeurs à la sauvette, bientôt peut-être les acheteurs à la sauvette, car se procurer des cigarettes au marché noir est désormais passible d'une amende de 135 €. Ça commence à faire cher le paquet. Cette mesure doit permettre évidemment de mieux lutter contre le trafic qui augmente en même temps que le prix du tabac. Depuis le début de l'année, les douanes ont intercepté plus de 280 tonnes de tabac. C'est 78% de plus que l'an dernier. La semaine dernière encore, 20 000 cartouches de cigarettes de contrebande étaient saisies à Calais. Alors selon la majorité, cette mesure est très attendue par les policiers dans les quartiers touchés par ce trafic comme Barbès à Paris ou le centre-ville de Marseille. C'est un trafic qui génère beaucoup de violence et nuit aux buralistes selon la députée LREM de Marseille Alexandra Louis. Mais cette amende, c'est aussi bien sûr un enjeu de santé publique, en particulier pour lutter contre le tabagisme des mineurs. Bernard Basset est le directeur de l'Association nationale de prévention en alcoolologie et en addictologie.
C'est positif parce qu'on sait que le prix des produits, donc le prix du paquet de cigarettes, influe sur l'achat et donc la consommation. Et cet effet prix est particulièrement sensible chez les jeunes. Les jeunes qui ont un pouvoir d'achat plus faible, évidemment, ont tendance à aller là où c'est le moins cher. Et donc, en particulier, quand on est dans certains quartiers de Paris, vers ces ventes à la sauvette de produits qui sont arrivés des pays transfrontaliers où le tabac est moins cher. Donc, effectivement, ça peut influer de manière positive pour empêcher les jeunes de fumer en achetant des produits moins chers. Évidemment, ça dépend de la capacité des forces de police à faire appliquer la loi. Est-ce qu'ils vont contrôler ? Est-ce qu'ils vont sanctionner des gens qui se mêleraient à ces trafics, tout le problème est là. Est-ce que ça va être contrebalancé par d'autres priorités que le ministère de l'Intérieur va leur fixer? Bon, c'est vrai qu'il y a une incertitude sur la capacité des forces de police à assurer le respect de cette nouvelle loi.
Bernard Basset au micro de Céline Autain. Ségolène Royal va bien se rendre à l'Assemblée pour s'expliquer. Deux députés centristes demandent son audition. Ils l'accusent d'utilisation de ses moyens d'ambassadrice des pôles à des fins personnelles. Et l'ancienne ministre de l'Environnement entend bien se défendre, Stéphane Robert.
Oui, Ségolène Royal répond aujourd'hui aux députés qui ont décidé de la convoquer à l'Assemblée pour lui demander des comptes sur son action d'ambassadrice des pôles. Elle se déclare toute disposée à venir pour une audition, mais attention, ce ne sera pas dans n'importe quel cadre. Elle fixe elle-même les règles et les conditions selon lesquelles elle acceptera de se rendre devant les députés. Cette audition pourra se tenir, dit-elle, devant la réunion conjointe des commissions des affaires étrangères et du développement durable, car les deux commissions sont concernées. Elle ajoute qu'elle n'a à ce jour reçu aucune convocation. Et pour cause, dit Ségolène Royal, il faudrait pour ça que le bureau de la commission concernée se réunisse au préalable. Or, on est en période de vacances pour les parlementaires. Elle dénonce dès lors à la fois une opération de communication et les arrière-pensées politiciennes qui, selon elle, sous-tendent cette convocation. L'ancienne ministre de l'écologie, Cécile Duflot, est allée dans le même sens ce matin lors d'une interview accordée à nos confrères de France Info. « Je connais trop », a dit Cécile Duflot, visant les deux députés qui mettent en cause Ségolène Royal. « Je connais trop les polémiques entre Noël et le jour de l'an qui permettent de passer à la radio ». Et l'ancienne ministre d'ajouter que Ségolène Royal, par le passé, fait partie de ceux qui ont beaucoup utilisé cette méthode. Rappelons que l'ancienne candidate du Parti Socialiste à la présidentielle a été nommée au poste d'ambassadrice d'épaule il y a 2 ans par Emmanuel Macron, que c'est une fonction pour laquelle elle n'est pas rémunérée, mais qu'elle dispose de 3 collaborateurs et d'une enveloppe pouvant aller jusqu'à 100 000 euros par an pour ses défraiements. Elle a été mise en cause le mois dernier par la cellule d'investigation de Radio France qui affirme qu'elle utiliserait ses moyens à des fins personnelles sans rapport avec sa mission. Accusation farouchement démentie par Ségolène Royal.
Les explications de Stéphane Robert. C'est à la fois la plus ancienne et la plus petite armée du monde, la garde suisse pontificale. Elle a pour mission de protéger le pape et le Vatican depuis 1506. Elle est particulièrement sollicitée en ces périodes de fête. Son histoire et son quotidien, en revanche, ne sont pas si connus. Et une bande dessinée en français vient de sortir le mois dernier aux éditions Artege, intitulée « Les gardiens du pape ». Notre correspondant à Rome l'a lu pour nous et pas n'importe où, au Vatican, Bruce de Gaza.
Marc est un jeune Suisse qui veut rejoindre la garde pontificale. Tout au long de la bande dessinée, nous suivons sa formation d'abord, puisqu'il a rempli les critères. Marc a déjà fait des études et son service militaire en Suisse. Il mesure plus d'1m74 et il est catholique. Nous suivons son quotidien ensuite au Vatican, que les auteurs de la BD ont vécu eux aussi. Yvon Bertorello est à l'origine du projet.
On est venu vivre avec eux, manger avec eux, et on a visité la cité Vatican où les gardes sont en fonction de jour comme de nuit, par tout temps, et quand on devient un peu comme l'un des leurs, eh bien on travaille beaucoup plus facilement. C'est pas une BD uniquement d'auteurs de l'extérieur, on a voulu que cette BD soit aussi la leur.
Au point que la garde suisse en fait même un outil publicitaire. Philippe Morard, le vice-commandant de la garde, a besoin de recruter, car le pape a décidé l'an dernier d'augmenter les effectifs.
De 110, on va passer à 135. Il y a une rotation d'environ 40 gardes, donc 40 gardes chaque année, 40 qui partent, 40 qui arrivent. Et grâce à cette BD, eh bien, on espère qu'on va susciter l'intérêt de nos jeunes depuis la Suisse pour venir à Rome. Et une fois qu'ils sont à Rome, d'essayer de les retenir le plus longtemps possible.
Avant de les retenir, il faut aussi les motiver, ces gardes suisses. Et c'est ce que fait le service de communication du Vatican depuis le début de l'année, avec une web-série visible sur YouTube. Son nom, hashtag 1506, l'année de naissance de la garde suisse, et déjà 11 chapitres de 3 minutes environ sont en ligne.
N'attends plus et rejoins-nous, nous t'attendons.
Entra far parte della Guardia Svizzera Pontificia.
Rejoins-nous pour la vivre pleinement.
Contacte-nous et montre-nous ce que tu sais faire.
Et tout au long des épisodes, on découvre la vie des gardes suisses. La vie que mène Tanguy Ackermann, 26 ans. Il a sauté le pas il y a 1 an et demi, mais avait besoin de savoir ce qu'était la garde suisse.
Dans mon cas, il y avait déjà un habitant de mon village qui avait fait la garde 10 ans plus tôt. Et je suis allé le trouver pour y poser les questions.
2 dans votre village, c'est déjà beaucoup.
Pour 200 habitants, oui, c'est pas mal. Oui, il y a besoin de faire de la publicité parce que la plupart des gardes partent après leurs 2 ans. Je ne pense pas qu'il y a moins de gens qui veulent faire la garde, mais il y a beaucoup plus de situations en Suisse qui nous empêchent de le faire, par exemple. Il faut essayer de pousser les jeunes à passer le pas et puis à prendre 2 ans pour l'église et le pape.
La BD apprendra aussi aux futurs recrues l'histoire de la garde, connue aujourd'hui surtout pour son costume de gala bleu, rouge et jaune. Mais il y en a eu bien d'autres, explique le dessinateur Laurent Bideau.
Autrefois, le costume des gardes suisses n'avait rien à voir avec celui d'aujourd'hui, ou très peu, à part le côté bouffant et puis le côté surtout exubérant en couleur. Il y a 3-4 siècles, c'était effectivement une multitude de costumes. Donc c'était très chamarré, les champs de bataille devaient être extrêmement joyeux, d'une certaine manière.
Sans doute pas en 1527, lorsque Charles Quint défie le pape Clément VII et que 147 gardes suisses meurent pour le défendre. C'est le sac de Rome, raconté aussi dans la BD, qui fait des retours dans le passé.
Un reportage de Bruce de Galzin. Et on le rappelle, 2020 est l'année de la BD en France. Le ministère de la Culture met en valeur le 9e art cette année avec, pour débuter, le Festival d'Angoulême au mois de janvier. Plus de 350 événements en tout sont siglés année de la BD et prévus en France en 2020. Le metteur en scène Claude Régis s'est éteint la nuit dernière à l'âge de 96 ans dans une maison de repos. Gérard Depardieu, qui a débuté au théâtre avec lui, le décrivait comme une sorte de faucon au regard dur et au caractère radical, l'apôtre du silence, de la pénombre et du dépouillement. Claude Régis débute en 1952, souvent à contre-courant de son époque. Il était habitué de petits théâtres, notamment celui des Amandiers à Nanterre ou encore le théâtre de l'Atelier dans le 18e arrondissement de Paris. Nous y revenons en longueur dans le journal de 22h. Un mot de la météo. Pour finir, demain matin, de la pluie et de la grisaille sur la majeure partie du pays. Seul le pourtour méditerranéen et les Pyrénées sont épargnés. On le droit à un peu de soleil. Côté température, comptez 8 à Lille, 10 à Paris et Dijon, 13 à Nantes, 14 à Marseille et 15 à Ajaccio. C'est la fin de ce journal. Il vous a été préparé par François-Charles Domergue. À la technique, Alex Dang.